Bon matin, Voix de service magazine, édition du 22 janvier déjà 2018. Mon nom est Claude Blassé et on se prépare malheureusement pour cette pluie verglaçante qui devrait nous affecter toute la nuit prochaine, malheureusement. En attendant, ben, nous vous avons préparé une bonne émission pour vous avec des articles toujours très intéressants. Et on va parler tout d'abord avec Franceline Nieuviard.
Oui.
Comment allez-vous ce
matin? Oui, bonjour. Oui, ça va. J'avais un petit chat
dans la gorge.
Oui, mais bon, voilà, c'est fait.
Ça va. De quoi allez-vous nous parler?
Je vais d'abord vous relater une interview de Dorothée Alexandre, qui est présidente du Conseil des Montréalaises. Mm-hmm. Cette interview a été faite par Alexandra Guélil et je l'ai trouvée dans la revue L'Itinéraire de 1er janvier 2018. Uh-huh. Ensuite, bien, je vous parlerai de janvier, qui était le mois de la sensibilisation à l'Alzheimer, qui est encore, puisqu'on est encore en janvier. Et peut-être une initiative surprenante à Rivière-du-Loup. Je vous laisse la surprise.
D'accord, merci. Et aussi avec plaisir, on retrouve M. Roger Roy. Comment allez-vous?
Oui, bonjour Claude, ça va très bien.
Bon.
Alors, j'ai moi deux textes. Le premier, c'est un texte de David Desjardins. Il termine son texte sur les médias en disant « Le ridicule tue ». J'en dis pas plus. Absolument, le ridicule ne tue pas, mais il le dit.
Bon, lui, il le dit.
Lui, il le dit. Okay. Mais bon. le deuxième, c'est la ville la plus fière du Québec, puis ne sauriez pas laquelle pour les plus anciens, là, c'est Drummondville. Ça a changé. Hein.
Ah.
Souvenez-vous ce qu'on disait de Drummondville?
Oui, tout à fait. Le milieu du Québec, oui. Oui, tout à fait. J'espère que ce n'est pas dans le même sens. Et moi, je vais être concept ce matin. Je vais vous parler de la tempête du verglas, la tempête du, en fait, qu'on disait presque du siècle. Non, pas tout à fait, mais en fait, on avait arraché quand même pas mal dans la section de... Alors, c'est deux articles que j'ai retrouvés dans l'actualité.
Oui, ça fait déjà 20 ans, hein, je
ouais,
pense.
Déjà
hein,
oui, déjà 20 ans,
hein.
Déjà. Ouais. Alors, on vous revient dans quelques instants avec Franceline. Alors, Franceline, vous voulez nous parler de Dorothée?
Oui, Dorothée Alexandre, qui est la présidente du Conseil des Montréalaises, qui est une instance consultative auprès de l'administration municipale pour tous les sujets liés à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la condition féminine. Elle est aussi engagée socialement depuis 15 ans. C'est une ancienne journaliste et entrepreneur en communication. Elle va revenir donc dans cette entrevue sur les grands enjeux qui devront être relevés au cours de l'année. Et puis c'était donc, j'ai trouvé ça dans l'itinéraire du 1er janvier 2018. Alors Alexandra Guélil pose la première question qui est celle-ci. La fin de l'année dernière a été politiquement marquée par la victoire de Valérie Plante, la première mairesse de Montréal. Quelles sont vos réactions et vos attentes? Alors elle répond, en regardant les enjeux sur lesquels nous nous sommes penchés principalement dans la dernière année, notamment celui lié à l'itinérance des femmes à Montréal, nous nous sommes interrogés sur comment la ville pouvait être partie prenante de la solution afin de mieux adapter ses politiques et règlements pour répondre aux besoins des femmes en situation d'itinérance à Montréal. Nous espérons donc poursuivre ce travail amorcé en privilégiant notamment une intégration de l'analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle dans les politiques de lutte à l'itinérance et à l'extrême pauvreté. Nous croyons important que la nouvelle administration continue de démontrer l'importance de cet enjeu en élargissant cela vers nos recommandations. C'est le cas par exemple de toute la question du logement social, un enjeu qui est beaucoup plus ressorti dans la campagne de Valérie Plante, qui devrait prendre en compte tout l'aspect sécuritaire et non mixte afin de créer des lieux facilitant la réinsertion des femmes, en rendant obligatoire une proportion de logements sociaux pour chaque nouveau projet de plus de 100 unités, avec l'assurance par la ville que les promoteurs ne pourront pas contourner cette mesure. Deuxième question. Avec la publication de l'avis qui dit ceci, l'itinérance des femmes à Montréal, voire l'invisible, l'année dernière, donc, cette publication, plusieurs recommandations ont été faites, dont celle que la ville intègre systématiquement une analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle. Pourquoi une telle importance? Il s'agit vraiment d'un portefeuille d'évaluation qui permet de déterminer en amont Comment une situation peut être vécue différemment par une femme issue de l'immigration ou de la communauté LGBTQ versus un homme ? La différence, c'est que l'on ne peut plus se permettre de mettre en place des règlements ou politiques qui ne tiennent pas compte en amont de ces réalités que vivent les femmes. C'est la raison pour laquelle nous pensons que la façon de prendre en charge certaines femmes qui se retrouvent en situation d'itinérance peut être différente de la façon de prendre en charge les hommes qui vivent une telle situation. Et cela est entre autres lié aux raisons qui font que ces femmes se retrouvent à la rue, c'est-à-dire violence conjugale, violence sexuelle, dépendance économique d'un époux, surtout pour les femmes aînées. Il ne faut pas oublier non plus qu'il s'agit d'une itinérance moins visible que celle des hommes, notamment parce que beaucoup de femmes ont du mal à dévoiler leur situation de précarité ou d'itinérance. De même, lorsqu'elles sont à la rue, elles sont encore dans un certain parcours de violence qui ne cesse pas. Autre question, vous plaidez pour un renforcement des capacités d'intervention pour les acteurs impliqués dans la lutte à l'itinérance. Concrètement, comment devrait-il se faire ? On peut penser par exemple à la police où il y a toute la question des femmes issues des Premières Nations qui sont beaucoup plus judiciarisées en raison des différences culturelles. Il devrait donc avoir des policiers issus de ces communautés qui pourraient intervenir avec ces hommes ou ces femmes. Je crois que c'est un élément primordial pour observer de réels changements. Il y a aussi toute une question de formation pour les organismes communautaires afin qu'ils sentent qu'ils sont épaulés par la ville de Montréal. Enfin, d'après un bilan effectué auprès de plusieurs intervenants sur le terrain, on se rend compte qu'ils sont à bout de souffle parce que la demande de services est de plus en plus imposante et diversifiée en même temps. Ces questions sont toujours reliées à la question du financement. Il faudrait donc que la ville les supporte un peu plus, notamment dans la représentation, puisque c'est le gouvernement provincial qui finance ces organismes-là. Le rôle actif de représentation permettrait de faire comprendre l'importance de tels services. Enfin, dernière question, faites-vous un lien entre le mouvement moi aussi de dénonciation des agressions sexuelles et vos actions à venir en tant que conseil consultatif ? Le mouvement de dénonciation des agressions sexuelles vécues par les hommes et par les femmes nous rappelle un peu que le Conseil des Montréalaises est issu historiquement de groupes de femmes. Et parmi eux, il y a plusieurs groupes qui œuvrent en matière de violences sexuelles auprès de leur clientèle. Lorsqu'on a lancé l'avis sur la sécurité dans les festivals au début de l'été dernier, c'était bien sûr dans une optique de comprendre le sentiment des femmes dans ce type d'événement extérieur. Nous nous sommes vraiment penchés sur ce sujet à la suite de l'histoire d'une festivalière qui disait avoir été victime de la drogue du viol. Au niveau de la sécurité des femmes, à peine un mois après la publication de cet avis, l'équipe Spectra a mis en place les hirondelles, c'est-à-dire une escouade de sécurité destinée à accroître la sécurité des femmes et des personnes vulnérables dans les événements extérieurs de Montréal. Cette équipe a été formée par des organismes qui ont pris en compte l'analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle. C'est donc un pas en avant que nous avons réalisé, menant à plus d'autonomie des femmes qui n'ont pas peur de prendre la parole. Voilà donc cette entrevue de Dorothy Alexandre avec Alexandra Guélil que j'ai trouvée dans le journal L'Itinéraire du 1er janvier 2018.
Ben, merci beaucoup, Franceline. On vous revient dans quelques instants avec Roger qui a retiré un article de l'actualité. Alors, Roger, Drummondville.
Oui, la ville la plus fière du Québec.
Ah, quand
oui,
même.
C'est Jean-Benoît Nadeau qui signe ce texte et publié dans l'actualité du mois de février. Mm-hmm. Première question d'abord, très importante celle-là. La poutine a-t-elle vraiment été inventée à Drummondville? La preuve n'est pas incontestable. Mais les Drummondvillois, eux, n'en démordent pas. Même que les quatre gars du groupe Les Trois Accords, originaires du coin, célèbrent la trouvaille gastronomique chaque été depuis 10 ans, avec leur festival de la poutine. Au mois d'août 2017, imaginez-vous, ce rendez-vous a attiré 30 000 personnes. On est loin du temps où Drummondville n'était, pour bien des Québécois, qu'une étape à mi-chemin de Montréal, de Montréal et de Québec, un nom sur un panneau de l'autoroute. C'était une ville quétaine, selon le défunt magazine satirique Crow, qui a été publié de 1979 à 1995, qui en a fait sa tête de Turc, c'est-à-dire le magazine Crow a fait de Drummondville sa tête de Turc. « Je ne veux plus être le secret le mieux gardé du Québec », dit le maire de l'endroit Alexandre Cusson, 49 ans, qui cite les activités qui animent sa ville, dont le Mondial des cultures depuis 1982, Drummondville sur son 31, spectacle en plein air le 31 décembre, Drummond en bière, la bière qu'on boit, là, le Festival de la blague, et ce n'est rien à côté de ce qu'on veut être, ajoute le maire, aussi président de l'Union des municipalités du Québec. Bien des municipalités de la province rêveraient d'être Drummondville. La ville est devenue le fer de lance de la renaissance manufacturière du Québec et l'un des symboles de réussite d'intégration des immigrants en région. On parle beaucoup du modèle Beauceron, mais le modèle, c'est maintenant Drummondville, dit Martin Dupont, 54 ans, directeur général de la Société de développement économique de Drummondville, la SDED. En 1977, l'actualité avait publié un bilan sombre de cette ville mono-industrielle, asphyxiée par le déclin du textile, affligée d'un taux de chômage effarant de 22 % en train de crever en douce. Drummondville, une ville à l'agonie, titrait le magazine. 40 ans plus tard, Drummond, 75 000 habitants, a quintuplé le nombre d'industries qui investissent 220 millions de dollars par année en moyenne sans même tenir compte des salaires. Les 11 parcs industriels sont pleins, le taux de chômage est à 5,3 %. La population a presque triplé depuis 1981. Ce qui nous aide à recruter du personnel, c'est que plus personne n'est gêné de dire qu'il travaille à Drummondville, dit Éric Côté, PDG de Groupe Souci, fabricant de pièces de véhicules et plus important employeur de la ville avec 1000 personnes dans 10 usines. Et le fait d'avoir maintenant une faculté de génie et une université à Drummondville va beaucoup nous aider, souligne-t-il. Ça peut surprendre, mais en effet, depuis janvier 2016, un campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières a ouvert ses portes à Drummondville. On y accueille 800 étudiants en sciences comptables, sciences infirmières, éducation et génie. Ce campus, les Drummondvillois l'ont obtenu après 15 années de démarches et une campagne de financement qui a permis de récolter 8 millions de dollars en quelques semaines. Selon le maire, c'est le reportage de l'actualité en 1977 qui a sonné le réveil. « J'étais jeune, mais ça avait été une claque en pleine face », raconte-t-il. « Bien du monde s'est dit, il faut faire quelque chose. » Le reportage a marqué les esprits, puisque de nombreux anciens résidents m'ont affirmé la même chose presque dans les mêmes termes. Les Drummondvillois sont aujourd'hui fiers de leur ville et ont cultivé un fort sentiment d'appartenance, dit Francine Ruet-Jutras, mairesse de 1987 à 2013, qui se souvient très bien de l'effet électrochoc du reportage de l'actualité. C'est vrai qu'on avait des problèmes, admet-elle. Le faible taux de diplomation était une de nos faiblesses, et ça l'est encore, mais l'université, on l'a eu parce que les Drummondvillois ont le goût de la réussite, ils ne sont pas défaitistes. Nous avons bâti sur la fierté et le sens de l'appartenance, et on continue de le faire. Derrière ce succès, il y a la Société de développement économique de Drummondville, la SDED, devenue depuis sa fondation en 1984 le modèle de bien des sociétés de développement municipal ou régional. L'organisme veille aux intérêts de l'industrie du tourisme et du commerce, en plus de gérer l'aéroport et le centre des congrès, le centre expo Cogeco. Dès 1984, la SDE a pris une orientation importante dont elle ne dérogera jamais, cultiver son jardin et soigner sa diversité. Lorsque l'usine Célanise a mis à pied ses derniers employés en 2000, les Drummondvillois se sont dit « plus jamais ». Il y a 40 ans, la moitié des emplois étaient dans le textile. C'est moins de 2 % aujourd'hui. Près de 60 % de l'activité concerne la fabrication mécanique, l'alimentation, le papier et la distribution. Les 624 entreprises comptent 25 employés en moyenne. Il n'y a pas encore une entreprise drummondvilloise milliardaire, dit Martin Dupont. Ça, c'est le président, le directeur général de la SDED. On n'a jamais couru après parce qu'on n'a jamais voulu se retrouver en situation de dépendance, mais on sera content si ça arrive et on sera prêt à l'accueillir. L'enjeu du recrutement est important à Drummondville, qui ne profite pas de la proximité d'une grande voisine comme réservoir de personnel. Or, les gens d'affaires veulent savoir si la main-d'œuvre sera suffisante avant d'investir dans la région. Dans la crise démographique post-baby-boom, Drummondville veut se ranger parmi les régions gagnantes, dit Martin Dupont. Depuis 20 ans, la SDED organise le forum Défi emploi Drummond. En 2016, celui-ci a permis l'embauche de centaines de personnes. Ce fut d'ailleurs une année record sur ce plan, avec la création de 1149 nouveaux postes. Bien des entreprises nous disent « J'ai 20 postes ouverts, mais j'aurai des projets pour lesquels il en faudrait 150 », dit le maire Alexandre Cusson. Pour combler ses besoins de main-d'œuvre, des entreprises comme le groupe Souci recrutent en Europe et ailleurs dans le monde, et la ville a renforcé sa structure d'accueil des immigrants, notamment en quadruplant le budget du RDI, c'est-à-dire le regroupement interculturel de Drummondville, lequel assure une meilleure collaboration entre les services de santé, les écoles et l'aide pour trouver des logements. Le RID compte 5000 immigrants de 57 nationalités, dont près de 900 Colombiens et presque autant de Français et d'Africains. Drummondville a accueilli 47 familles syriennes, alors que la moyenne des régions est de 10 ou 12, note Daryl Barnabo en ajustant ses lunettes. Originaire du Togo, l'homme au sourire généreux est arrivé à Drummond en 2009 après un détour par Trois-Rivières pour ses études en gestion. Les gens des autres régions et même de Montréal commencent à se passer le mot que c'est à Drummondville que ça se passe, dit-il. Après l'université, le prochain grand chantier sera la croissance du secteur tertiaire qui demeure sous-développé. Certes, c'est à Drummondville qu'est née l'une des plus anciennes compagnies d'assurance du Canada, l'Union Vie, fondée en 1889, mais on y trouve peu de cabinets de comptables, d'avocats ou d'ingénieurs et pas de sociétés en technologie de l'information. Les bureaux régionaux des ministères sont également rares. La santé relève de Trois-Rivières, par exemple, et l'antenne locale de la Sûreté du Québec dépend du bureau de Sherbrooke. Un des problèmes de Drummondville est qu'on va tellement bien que personne ne croit qu'on a besoin d'aide, dit Alexandre Cusson, qui se démène pour attirer des bureaux administratifs de ministères. Martin Dupont et lui croient que la position géographique de Drummondville est le meilleur argument pour convaincre des cabinets de Montréal ou de Québec d'ouvrir un bureau régional qui servira le reste du Québec. Ce qu'Alexandre Cusson résume en une formule choc, le reste du Québec est la banlieue de Drummondville. ça a plutôt changé hein, depuis...
Mais ça prouve une chose, hein, quand on veut, on peut.
Oui, c'est exactement ouais,
tout
ça.
Tout à fait,
oui.
On est passé.
C'est extraordinaire pour le campus de l'Université de Trois-Rivières. Ça a pris 15 ans.
Ouais.
Ils ont été tenaces.
Ils ont été tenaces oui. Et ça fait du bien d'entendre de belles nouvelles oui. De la sorte. On s'en va à la pause musicale. On vous revient tout de suite après.
Ça va se passer vendredi. Comme des flammes, vous danserez jusqu'à l'aube. Ta mélodie de toute sa beauté, l'amour de ta vie. Elle te reviendra comme une éclaircie. Tu la reverras ce vendredi. Comme des âmes qui volent l'une vers l'autre. Mélodie et Louis, quelques jours avant qu'ils se revoient au paradis, de nouveau ensemble dans les bras l'un de l'autre. Oh, tu le retrouveras au sommet le plus haut du monde. C'était ça votre destin, tu l'avais vraiment choisi.
Nouveauté de la formation Deux Frères, pièce qui s'intitule Au sommet.
Deux frères qui sont très populaires en les temps qui courent, hein, c'est vrai?
Ouais. Absolument, qui fracassent des records.
Effectivement. À travers le Canada, soit dit en passant.
À travers le Canada, oui. Francophone.
Exactement, c'est ça. Alors, j'ai retrouvé un article dans l'actualité, un papier d'Alain Vaudeboncœur qui parle de tempête du verglas. Et il dit ceci, 20 ans après le verglas, ben, Alain Vaudeboncœur revit l'un des épisodes les plus intenses de sa carrière d'urgentologue. Coordonner la réponse médicale en Montérégie durant une des pires catastrophes naturelles de l'histoire. C'est le samedi 24 janvier 1998. Le verglas vient de frapper une seconde fois le Maine, plongeant 230 000 de nos voisins dans le noir. Environ 200 000 Montérégiens, qui ne sont toujours pas branchés, gèlent et s'impatientent. Parmi eux, des milliers végètent encore dans l'un des 75 centres de services aux sinistrés, les CSS, mis en place dans la région. Dans le genre démesuré, on ne pouvait demander plus. Un sinistre, une vraie, la moitié de la population du Québec et 80% des Montérégiens sont plongés dans le noir. Montréal passe près de s'éteindre, les raffineries, la téléphonie, cellulaire et eau compris. Un millier de pylônes s'écrasent comme des tours de papier. Nos hôpitaux ébranlés par les pannes, les soins sont menacés par le manque d'eau, de grandes régions n'ont presque plus de liens de communication, et mon chauffeur de taxi, parce que mon auto en panne me boute dans un garage, m'en promet une pire pour février, mais jure qu'il ne lit pas l'almanach, pas du tout. C'est donc le 24 janvier au matin que le docteur Julien Poitras, alors rédacteur en chef de la revue Médecine d'urgence de l'Association des médecins d'urgence du Québec et aujourd'hui doyen de la faculté de médecine de l'Université Laval, me commande un texte à chaud. Nous avions toujours l'électricité, décrivant la réponse médicale élaborée depuis le 5 janvier en Montérégie pour affronter ce sinistre nul autre pareil. Bien sûr, le sujet concerne la médecine d'urgence. Directement, puisque les urgences ont alors été fortement impliquées dans la réponse médicale. Elles paraissent d'ailleurs avoir réussi à s'adapter à l'augmentation massive de la demande. Sans doute sommes-nous habitués à y gérer le chaos, mais c'est tout à l'honneur de ces artisans de s'être si bien adaptés à cette crise sans altérer la qualité des soins. Indirectement, puisque le médecin de sinistre peut être considéré comme une branche de la médecine d'urgence, mais ce n'était pas ça du tout. puisque l'ensemble du réseau de la santé s'était aussi trouvé vivement impliqué. Il était donc opportun d'en dresser un tableau global. Car on trouve dans ces événements une source brute de connaissances à ne pas négliger, même si ça dépasse le cadre de notre pratique médicale. L'image qui m'en reste, encore aujourd'hui, au-delà de celle véhiculée par nos médias prodigues, des cochons morts, des érablières maganées, des sinistrés entassés, des pleurs et des colères, exploits héliportés de nos monteurs de ligne, colle André Caillé et le col roulé qu'André Caillé portait, et autres comme Steve Flanagan. C'est celle qu'un médecin m'avait montrée durant un souper. Le polaroïde d'un gant de travail déposé sur la glace d'un plateau d'urgence. C'était le gant d'un vaillant monteur de ligne, venu de loin, ayant subi une électrisation. Et dans le gant calciné, il y avait sa main. L'étions-nous bien prêts? Aurions-nous pu avoir mieux planifié la réaction médicale? Sans doute. Il y a eu lieu de douter, comme pour tout en médecine, afin de comprendre si nous aurions pu agir différemment. L'opération Tempête de verglas, comme on l'a baptisée ici, n'a pas échappé à la règle du genre. Nous avions devant nous l'inconnu. Il fallait gérer, avancer du mieux que nous pouvions et répondre aux besoins exprimés tout en anticipant le lendemain. Comme nous l'avait enseigné le docteur Pierre Boucher, expert en médecine de sinistre, il en avait vu d'autres comme médecins et militaires, notamment en Bosnie et au Rwanda. Alors consultant auprès de notre équipe, la préparation n'est jamais meilleure que celle que permet le sinistre précédent. Par-dessus tout, beaucoup de ceux qui doivent travailler d'arrache-pied pour aider la population, les gens de la santé, d'Hydro, la sécurité publique, des municipalités, etc., sont eux-mêmes souvent durement touchés par le sinistre. Comment œuvrer pour les autres quand la famille doit être hébergée, que la maison gèle et que la parenté s'inquiète? Ça prenait une sacrée détermination. Ah voilà, c'est un papier de Alain Vadeboncœur que j'ai retrouvé dans l'actualité du mois de janvier. On s'en va à la pause, on vous revient pour la deuxième partie de l'émission.
On nous prend, faut pas déconner, déconner. soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Lusulidzer. Ah, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la moqueur du ciel des vagues. Cheval, foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment.
Reconnu Foule sentimentale, Alain Souchon, un souvenir de 1993.
Merci beaucoup. Franceline, on a un mois important, hein, ou est-ce qu'il y a un sujet important aussi?
Oui, janvier, le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, et j'ai trouvé dans le journal du Bel Âge un article intéressant sur une activité dont je vais vous parler. Mais avant, je vais vous donner quelques chiffres quand même par rapport à l'Alzheimer, dont la source est la Société d'Alzheimer du Canada en 2017. À l'heure actuelle, 564 000 Canadiens sont atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre maladie cognitive. De ce nombre, 65 % sont des femmes de plus de 65 ans. Le risque de développer la maladie double tous les 5 ans à partir de 65 ans. Celle-ci peut toutefois frapper durant la cinquantaine, la quarantaine et même la trentaine. D'ici 15 ans, près d'un million de Canadiens seront atteints d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Alors, compte tenu de ces chiffres, eh ben, c'est vrai qu'il faut, c'est quelque chose dont on parle beaucoup actuellement, à juste raison. Mmh. Alors, il y a dans cet article d'abord une note d'espoir. Et j'ai bien aimé la chanson que Jean-Sébastien a mis parce que ça rappelle des souvenirs. Et il va être question dans cet article de choses comme ça. En effet, la bohème de Charles Aznavour, les Champs-Élysées de Joe Dassin, quand on les aime, ces chansons-là nous aident à retrouver le sourire. Et si la musique parvenait à toucher même les gens les plus reclus mentalement? Au cours des dernières années, divers intervenants auprès de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer on constatait que des airs de musique ou des mélodies semblaient provoquer une réaction chez elle. Souvent toute petite, mais à la fois bouleversante pour l'observateur. Certains vont esquisser un sourire, d'autres taperont légèrement du pied pour suivre les rythmes ou hocheront la tête, raconte Alexane Roy, fondatrice de soins musicaux SAMA, c'est-à-dire soins adaptés en musique aux aînés. Le fait d'écouter une chanson qui leur est familière et qu'elles apprécient permet d'éveiller de petites parcelles au niveau des neurones, ajoute-t-elle. La chanteuse est animatrice d'ateliers conférences musicaux où les participants sont encouragés à se joindre à la fête en fredonnant, a ainsi été témoin de moments inoubliables. Elle dit « L'espace d'un court instant, ces personnes semblent plus présentes et attentives. Certaines vont lever la tête ou encore être en mesure de réclamer quelque chose dont elles ont envie. » En entendant « N'oublie jamais » de Raymond Berthiaume, une foule d'images du passé peuvent affluer. Comme si l'air était une clé pour ouvrir le tiroir aux souvenirs et faire surgir des émotions. La mémoire affective est précieuse parce que c'est elle qu'on garde le plus longtemps, confirme Madame Roy. À son avis, nul besoin d'être musicien pour se servir de la musique comme moyen de communication. Ça m'attriste d'entendre quelqu'un dire « Ma mère est morte il y a 10 ans quand elle a reçu son diagnostic d'Alzheimer ». En effet, rien ne sera plus jamais pareil, mais on dispose de moyens permettant d'établir des contacts avec la personne atteinte d'un trouble cognitif. Ces moyens peuvent être très simples, drôles et qui nous font rire, danser et retrouver notre côté enfant. Quoi de plus merveilleux que de voir l'être aimé s'animer tout d'un coup ? Au cours d'un de mes ateliers, j'ai demandé à une dame que je voyais fredonner le nom de son chanteur préféré. « Fernand Gignac », m'a-t-elle répondu tout de go. À la grande surprise de sa fille, qui n'avait pas entendu sa mère parler depuis des semaines. On n'oublie pas de sitôt ces petits miracles. On a envie de chantonner « Mon manège à moi » d'Edith Piaf ou « J'attendrai » de Dalida. L'atelier conférence « La chanson comme outil de communication » animé par Madame Roy et organisé par « Le temps d'une pause », un organisme qui intervient auprès des familles de personnes atteintes d'Alzheimer, promet non seulement de nous renseigner sur les pouvoirs magiques de la musique, mais aussi de nous fournir l'occasion de faire vibrer nos cordes vocales. Et tant pis si on ne chante pas comme Céline Dion ou Barbara Streisand. Dans une chorale, sous la douche, au karaoké, ce qui compte, c'est d'utiliser notre voix pour mordre dans la vie et goûter le moment présent, conclut Madame Roy. Alors, je vous annonce cet atelier conférence « La chanson comme outil de communication », il y en a un le 27 janvier à 13h30 au CHSLD François-Joseph Perrault, au métro Saint-Michel. Et si vous êtes intéressé, ben regardez et inscrivez-vous à l'organisme letempsdunepause.org. Et je pense qu'effectivement, c'est intéressant comme activité et très pertinent.
Et pour aller chercher des renseignements.
Voilà. Alors donc, letempsdunepause.org, et ce sont donc des ateliers conférences, la chanson comme outil de communication.
Mais merci beaucoup, Franceline. Et moi, je poursuis tout de suite après ce petit instant.
Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi.
Merci beaucoup Jean-Sébastien de cette attention là, ça me touche particulièrement.
On voit l'émotion dans vos yeux, Franceline.
Oui, oui, oui.
Ah, c'est très bien quand même. Alors moi, je voulais, j'ai soutiré en fait encore une fois un article dans l'actualité qui poursuit dans le même titre que ce que j'ai fait dans la première demi-heure sur le verglas. Et cette fois-ci, ça titre « Ce qui suit les paramédics en mesure d'urgence ». On dit durant la crise du verglas de 1998, toutes les ressources humaines et matérielles en santé subissent une pression énorme. Les paramédics n'y échappent pas. Ils doivent composer avec un volume d'appels qui atteint 3 fois la normale. Alors, le mardi 6 janvier 1998, après 24 heures de verglas, on réalise alors chez CETAM, c'est la principale société ambulancière de la Montérégie, que ni la journée ni la semaine ne seront comme d'habitude. Ce n'est pas simplement une journée plus glissante où il faut conduire prudemment. On vient en effet de recevoir un appel d'une résidence pour personnes âgées de Saint-Lambert. En raison d'une panne généralisée, il faut évacuer des patients, 100 patients, et avant 15 heures, on imagine la commande. Dès lors, CETAM entre aussi en mesure d'urgence et le restera plusieurs semaines. On y ouvre une petite salle qui jouxte la répartition, c'est la centrale de coordination, et Michel Rivard, directeur opérationnel, appelle la régie et l'informe de la demande de la résidence. On lui répond qu'il faut coordonner le tout, sans transport en quelques heures, c'est beaucoup trop. On fait plutôt appel pour une bonne part à des ressources parallèles. Une filiale de CETAM, qui s'appelle Transed, qui s'occupe du transport adapté, est utilisée à plein, effectuant plus de 250 transferts durant les jours critiques, assurant aussi le transport des troupes pour CETAM, qui peut du même coup se recentrer sur son mandat essentiel, les transports primaires urgents. La plupart des paramédics sont eux-mêmes sinistrés, ce qui ajoute à la fatigue. Après quelques jours, on leur organise des zones de repos plus décentes dans les alentours, jusque dans un salon funéraire, endroit fort tranquille et, semble-t-il, propice au repos. Pour l'alimentation, on fait venir sur place un traiteur, à l'œuvre 24 heures sur 24. CETAM est plus tard frappé par une panne qui durera 4 jours. La génératrice tient le coup. Et en cas de pépin, on peut toujours, en quelques minutes, faire ouvrir une centrale de répartition miroir située à Urgence Santé. Les répartiteurs n'ont qu'à y être relocalisés pour que les opérations continuent. Par moments, les communications sont difficiles. On dispose habituellement de 5 antennes. On en perd 3. À certains moments, il n'en reste qu'une. Tout le territoire doit alors passer par cet unique canal. Nouveau problème, les CLSC, comme d'autres qui croulent aussi sous les demandes, donnent le numéro de CETAM aux gens qui appellent un peu pour tout. Le téléphone ne dérougit plus. Il faut faire du ménage dans tout cela. On met sur pied rapidement une structure de mesures d'urgence en retirant aux chefs d'équipe et autres responsables leur mandat courant et en les affectant aux dossiers prioritaires. Une quinzaine de personnes travaillent ainsi à tour de rôle dans la centrale de coordination. Répondre à un appel pour un arrêt cardiaque à la lampe de poche au fond d'un sous-sol où il fait un noir d'encre est, paraît-il, une expérience saisissante. Pas drôle, non plus. Lorsqu'une fenêtre entrouverte laisse le monoxyde de carbone dégagé par les ambulances s'infiltrer dans la répartition et incommode du coup les 6 répartiteurs qu'on doit transporter en ambulance à l'hôpital. Une fois l'évacuation achevée, les lieux aérés, on en trouve 6 nouveaux et on recommence encore. Le volume des appels croît rapidement. De la centaine d'appels par jour que reçoit habituellement la répartition, on atteindra des sommets, 316 appels pour le samedi 10 janvier. Et en prime, quelques événements spéciaux qui demandent l'envoi de ressources massives. 8 véhicules pour évacuer l'hôpital Charlemagne le 11 janvier au matin. 10 véhicules plus tard pour évacuer un CSS de Saint-Bruno à cause d'un faux appel à la bombe en pleine nuit à 2h30 du matin. Les chefs d'équipe seront envoyés sur place afin d'évaluer les besoins. Pour arriver à répondre à cette demande massive, les paramédics travaillent au début 16 heures par jour et dorment sur place. Mais rapidement, la capacité de réponse est dépassée. On appelle alors des renforts, 10 paramédics de Québec et avec eux 3 ambulances. Au total, durant la crise, ils seront une centaine, venant de toutes les régions de la province, amenant avec eux une dizaine de véhicules. Ces mesures exceptionnelles permettent de répondre en tout temps à la demande, sans découverture notable de territoire. De ce côté, mission accomplie. Les ambulances du préhospitalier débordant d'appels, les militaires sont ensuite mis à contribution pour les transferts interhospitaliers. Le personnel étant relativement peu formé, il ne peut cependant s'agir que du transport de patients stabilisés. Il faut apparemment voir les yeux de l'urgentologue Gilles Bocage de l'hôpital Pierre-Boucher lorsqu'on lui offre le choix entre une ambulance militaire et un hélicoptère pour amener un patient à Montréal. Ce qu'on retient de tout ça? Mais d'abord, pour des gens dont la vocation est de travailler en urgence, il s'agit d'une expérience difficile, mais riche d'enseignements. On y apprend à se connaître et à travailler dans un mode de gestion accéléré où l'objectif est de prendre des décisions. Et sur le mur à ce moment-là, on lit « Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions ». Et ceci semble avoir inspiré l'équipe. Même si aucun plan interne ne prévoyait la réponse pour un sinistre de cette ampleur, la structure élaborée a bien fonctionné. Les responsables soulignent aussi la collaboration exemplaire de leurs techniciens ambulanciers qui n'ont pas hésité à sauter des repas, accumuler les heures indues ou être tirés de leur sommeil pour aller prêter main forte. Alors on finalise l'article en disant « Chapeau aux paramétriques, aux paramédics, excusez, lors de cette crise du verglas. » On y arrive, on y arrive. Alors, Roger, un peu de confusion en studio, mais ça va.
Oh oui, pas de problème.
Alors, Roger.
Oui, le ridicule tue.
Ah, voilà.
Apparemment, on dit qu'il ne tue pas, mais là... C'est David Desjardins qui nous a pondu ce texte qui paraît dans l'édition de janvier de l'actualité. La nouvelle apparaît sur mon fil Twitter. Tim Hortons lance un café latté à saveur d'ailes de poulet piquante. Un canular, c'est sûr, issu d'un site de nouvelles satiriques comme The Onion. Sauf que ce n'est pas le cas. La nouvelle provient du magazine Fortune. Je clique, je lis, mais je n'y crois toujours pas. Alors je Google Tim Hortons Buffalo Wing Latte, le Toronto Star, Business Insider, Global, CTV, Metro, The National Post. Tout ce beau monde a repris la nouvelle du café latte. Avec saveur d'ailes de poulet piquante. Le géant du café a bel et bien atteint ce degré d'aberration, du moins dans la ville de Buffalo où l'immonde boisson est servie en exclusivité. Peut-être que ce n'est qu'une impression, mais il me semble que le phénomène se produit de plus en plus souvent, le sentiment que les nouvelles sont devenues une caricature des nouvelles. Entre un article sur l'amour que porte le leader nord-coréen à Whitney Houston, en une d'un balado de New York Times et l'obsession des médias pour les chaussures à l'effigie de Chewbacca du premier ministre canadien. Le Guardian demande « Les bas de Justin Trudeau peuvent-ils amener la paix dans le monde ?» en blaguant à moitié. J'ai le sentiment que notre monde est devenu, à ce point absurde, que même les nouvelles sérieuses prennent l'allure de satire. C'est un sentiment que je partage, me confie Marc Laurando. Avant d'être un journaliste respecté, l'homme a sévi au sein du groupe d'humoristes Les Cyniques qui parodiait allègrement le milieu politique. Laurando dit « Même avec les créditistes, qui étaient naturellement très drôles, il fallait grossir le trait pour faire sourire ou pour faire rire. Mais, ajoute-t-il, quand je vois Alec Baldwin jouer Donald Trump à Saturday Night Live, je me dis que Alec Baldwin ne pourra jamais être aussi excessif et dérisoire que le vrai Trump. » Bon. Le monde est devenu une parodie du monde, abonde Ludovic Schneider, fondateur du site de nouvelles satiriques La Pravda. Nos personnages publics ont des traits de caractère à ce point accentués que c'est presque trop facile de s'en moquer, dit-il. Il cite le truculent ministre de la Santé Gaëtan Barrette. On pourrait ajouter Régis Labeaume ou en contrepartie quantité de politiciens qui se couvrent de ridicule. En employant une langue douloureusement cryptique, pensons à Mélanie Joly qui a élevé la pratique au rang d'art. Avant, il fallait qu'on y colle une blague pour en rire, mais de plus en plus l'actualité est déjà assez ridicule, sans qu'on ait besoin d'en rajouter, confirme M.C. Gilles, fidèle collaborateur de l'émission Infoman. Alors qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le monde est de plus en plus risible? Ou est-ce la manière qu'ont les médias de relayer l'information qui change? L'an dernier, TVA s'est vanté d'avoir la nouvelle la plus partagée, soit l'histoire de la dinde noire de Gatineau. Vous vous en souviendrez peut-être, qui avait fracassé la fenêtre d'une maison, illustre M.C. Gilles. « Je n'aurais jamais rien fait d'aussi drôle que ça, mais si c'est devenu viral, c'est parce que le reportage n'avait pas d'allure. Le réseau, lui, voit ça comme quelque chose de positif. » C'est extraordinaire, c'est comme fait divers. Les médias ont suivi la tendance pour augmenter leur trafic web, notamment en publiant des nouvelles racoleuses, croit aussi Ludovic Schneider. Non, sans conséquence. Avant, mes lecteurs voyaient rapidement que ce que je publiais était une niaiserie. Mais maintenant, ça devient de plus en plus difficile de faire la différence entre le vrai et la satire. Et c'est beaucoup à cause des titres toujours plus rocambolesques qu'utilisent les médias traditionnels pour attirer le public. Absurdité du monde ou traitement absurde de l'actualité, le grand perdant à ce jeu de dupes est la vérité. La frontière floutée entre le réel et la parodie répond sans doute à la mécanique des fausses nouvelles que décrit Harry Kruglansky, professeur de psychologie à l'Université du Maryland, un puissant conflit interne chez les individus entre le désir d'obtenir de l'information de qualité et celui d'être conforté dans ses idées. Ici, c'est le désir d'être diverti qui gagne. Il faut donc se demander, l'attrait pour la parodie alimente-t-il la popularité des politiciens caricaturaux? Si le réel se confond avec sa caricature, cela explique-t-il le soudain intérêt pour des personnages publics plus grands que nature? Pensons à Donald Trump, lors de la dernière campagne électorale, se moquant d'un journaliste handicapé devant un public hilar. Autrefois, cela l'aurait mis hors de course. Si notre désir de rire de tout produit un réel de plus en plus risible, je crains bien que, comme les fausses nouvelles, ce phénomène finisse par avoir raison de pan entier de ce qui constitue le socle de nos démocraties, et ça, c'est tout sauf drôle, parce que rendu là, on pourra affirmer sans rire que le ridicule tue.
Effectivement.
David Desjardins dans l'actualité.
Merci beaucoup, Roger. On vous revient tout de suite avec Franceline. Alors, Franceline, un article intéressant aussi.
Oui, c'est ça. Oui, je ne vais pas aujourd'hui vous parler de Rivière-du-Loup. Je le réserve pour la semaine prochaine parce que c'était un petit peu trop long. Je vais donc vous parler d'André de Rouyn, qui est dans un petit article intitulé « Rêve de Pierre ». En effet, il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. C'est à la retraite qu'André de Rouyn s'est lancé à temps plein dans la sculpture et ses créations lui valent de plus en plus de succès. L'été dernier, le sculpteur sur pierre André de Rouyn a reçu une médaille d'argent décernée par la commission des récompenses de l'Académie Arts, Lettres, Sciences de Paris. Belle façon de souligner sa deuxième carrière. « On me l'a accordée pour l'ensemble de mon œuvre », précise le sculpteur sexagénaire, ému et surpris. « Je ne suis professionnel en la matière que depuis 3 ans. Ce prix a confirmé ma décision de me lancer en sculpture ». Décision qu'il a prise après avoir travaillé pendant 32 ans en gestion et relations de travail à la Société de transport de Montréal. À ma retraite en 1998, j'ai écrit une liste de choses que j'aimerais faire, parmi elles, revenir à la sculpture. Jeune, il sculptait déjà des arbres morts trouvés dans les Laurentides où il passait ses étés. Avec le travail et les enfants, j'ai laissé tomber. À la retraite, j'y suis revenu, toujours en autodidacte. Puis je trouvais près de mon chalet dans les Laurentides de beaux morceaux de pierre dans une carrière de granit abandonnée. Sculpteur dans l'âme, il découvre qu'il peut en tirer des formes, sans savoir encore qu'il en ferait sa deuxième carrière. C'était en 2006. Pour maîtriser sa technique, André suit un cours au Centre des arts Sadie Brofman à Montréal. Tout a déboulé à partir de 2014 quand je suis devenu membre de l'atelier Sculpte, où je travaille toujours, puis de l'Association des sculpteurs de la Montérégie, où je demeure maintenant, et du Conseil de la sculpture du Québec. Au début, ce n'était que loisir. Rien n'était planifié. Je sculpte parce que j'aime ça. Puis j'ai réalisé que j'en faisais bien un nouveau métier, aux antipodes du premier que j'ai exercé. Je n'ai aucune contrainte, même si depuis 2 ans, c'est devenu un travail à temps plein, 75% de gestion de carrière et 25% de production. Mais c'est ce qu'il faut faire et ça donne des résultats. Son loisir est donc devenu passion à partir de quelques belles pierres. Chaque pierre dégage un mystère. C'est comme quand on regarde les nuages et qu'on y voit des formes. Quand je vois une pierre, sa forme m'inspire et je sais tout de suite ce que j'en ferai. Je cherche d'abord à exprimer un sentiment. Cette nouvelle vie m'apporte un bien-être incroyable. Je me sens libérée. Donc voilà, c'est un bel exemple d'activité à faire après à la retraite, par exemple.
Ouais.
Et donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder ce que fait André Derouin dans le site andredderouinsculpteur.com.
Merci
voilà,
beaucoup,
Franceline. C'était dans Le Bel Âge de janvier 2018.
Merci à toi pour cette collaboration. Merci pour cette émission. Merci, Roger. Merci à Jean-Sébastien de l'autre côté de la vitre qui mène ça d'une main de maître. Et reste à l'écoute, il y a l'émission Le quotidien des quotidiens qui suit tout de suite après la pause avec Hélène Denis. On vous souhaite une excellente semaine.
Au revoir.